Parcours intérieur, saison 2, le podcast qui vous dit tout sur la préparation mentale.
L'émotion, c'est d'abord quelque chose que vous raconte votre cerveau. On a des neurones dans la tête, dans le cœur, dans l'estomac, et comprendre ces émotions, c'est comprendre ce que nous dit notre cerveau. Quand l'émotion se manifeste sur un parcours, eh bien c'est comme si elle envoyait au joueur un SMS qui lui dit « tu as quelque chose à faire, pose une action, réagis ».
Plus de 4 heures passées sur un parcours de 18 trous, voilà qui nous laisse largement le temps d'exprimer nos émotions, bonnes ou mauvaises. On sait bien qu'il faut se relaxer sur le parcours ou en situation de stress, lors de compétitions, mais trop souvent, on se laisse envahir, voire déborder par nos émotions. Il est pourtant possible d'apprendre à mieux les gérer grâce à un travail approfondi de préparation mentale et notamment à certaines techniques et stratégies mentales. Alors aujourd'hui, c'est avec Cédric Coquet que nous allons nous pencher sur ces questions. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur de la préparation mentale à la Fédération française de golf et nous souhaitons justement lancer ce podcast en écoutant une jeune proète, Nastasia Nado, avec laquelle vous travaillez depuis plusieurs années.
L'idée sur le parcours, c'est vraiment d'être assez focus sur le coup à jouer à l'instant T et pas de se concentrer sur ce qui s'est passé il y a 2 trous ou sur ce qui va se passer sur les trous d'après. C'est vraiment sur du shot by shot, du trou par trou en fait. C'est comme ça que je fonctionne et ça m'aide vraiment à contrôler un maximum les émotions positives ou négatives qui pourraient arriver sur le parcours finalement. C'est un gros travail qu'on a fait avec Cédric, d'identifier ses émotions. Ah là, ok, je sens que c'est un peu chaud sur ces quelques trous. Ah là, je sens que je suis bien, etc. Et après, comment je fais ? Je respire beaucoup sur le parcours. Je pratique beaucoup la respiration consciente. C'est une respi 5-5, j'appelle ça. Donc, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Répétez autant qu'il faut. Ça va permettre de réguler le rythme cardiaque et de retrouver un état un peu plus calme et posé.
On vient d'entendre Nastasia Nado qui nous a expliqué comment elle s'y prenait pour gérer ses émotions sur un parcours. Apparemment, certains sportifs gèrent mieux que d'autres leurs émotions. À quoi est-ce que cela est dû, Cédric ?
Alors déjà, Nastasia, oui, elle paraît calme à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, elle gère son discours interne, ses pensées, voire les sensations du corps qui peuvent parasiter la concentration. Donc ça peut amplifier les émotions. Donc tous les champions ressentent des émotions, même s'ils ne le font pas voir, comme tous les joueurs finalement. C'est un réflexe un peu archaïque. Et donc ces émotions, elles sont ressenties comme agréables ou désagréables par tous les joueurs qui nous écoutent. C'est comme une réaction physiologique, si vous voulez, les émotions. Alors, il y a une accélération du rythme cardiaque. On l'a tous, je pense, vécu quand on est au départ du 1, quand on cherche à rentrer un pote. Mais il y a aussi comme une sensibilité au niveau, des fois même digestif, parce que le sang, si vous voulez, qui n'irrigue plus le système digestif, c'est vraiment une réaction physiologique où tout est transporté vers les muscles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment oxygéner les muscles. Et donc, on a une réaction physiologique de montée en température du corps et d'accélération du rythme cardiaque qui peut, des fois, bien décontenancer un peu certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses.
Donc l'intelligence émotionnelle dont parlent beaucoup les psychologues et qui est, on le rappelle, cette capacité d'adaptation à l'environnement. Elle est donc acquise et non pas innée.
Sur le plan scientifique, il y a deux élans. Oui, en effet, il y a une partie qui est un peu innée, comme Darwin l'avait démontré. Mais en fait, les recherches aujourd'hui montrent que c'est beaucoup aussi quelque chose dû à l'éducation. Donc, c'est comment est-ce que vous, joueurs, vous avez appris à gérer vos émotions ? Est-ce que vous savez comment elles fonctionnent ? Est-ce que vous savez comment, en fait, vous pouvez les utiliser ? Et est-ce que vous avez des parades ou des outils pour pouvoir, justement, les réguler ? La première chose à faire, c'est vraiment d'apprendre à les connaître, savoir comment fonctionne une émotion.
Oui, donc ça, c'est vraiment la première étape indispensable pour apprendre à mieux les gérer.
Complètement. Comprendre l'émotion, si vous voulez, pour un joueur, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut comprendre que l'émotion, c'est d'abord quelque chose que vous raconte votre cerveau. En fait, on a des neurones dans la tête, dans le cœur, dans l'estomac, et comprendre ces émotions, c'est comprendre ce que nous dit notre cerveau. Quand l'émotion se manifeste sur un parcours, eh bien, c'est comme si elle envoyait au joueur un SMS qui lui dit « tu as quelque chose à faire, pose une action, réagis ». Et poser une action, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment réagir et écouter l'émotion. Donc pas chercher forcément à, comme nous demandent souvent les joueurs, j'aimerais jouer sans émotion, mais plutôt chercher à baisser l'intensité de l'émotion, et puis à l'utiliser à bon escient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour comprendre l'émotion, c'est comprendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire la réaction du corps. Le corps, il a besoin pour jouer de sérotonine, de dopamine, de cortisol. On en a besoin, mais à petite dose. Et quand on laisse aller l'émotion un peu trop loin, eh bien, tous ces phénomènes chimiques montent un peu trop en puissance. Et on sait que, par exemple, si on s'énerve pendant une minute, le taux de cortisol monte tellement haut qu'il nous faut une heure pour faire baisser le taux de cortisol à un niveau contrôlable. Ça veut dire qu'il passe quatre trous où on a du mal à se concentrer, où le cerveau préfrontal, il n'arrive plus à prendre de décision.
Et justement, est-ce que vous diriez qu'il existe des émotions positives d'un côté et des émotions négatives de l'autre ?
Moi, je dirais que le golf est générateur d'émotions. Quand on est au tee numéro 1 ou parfois quand on cherche à rentrer un pote, prenez l'exemple de, par exemple, Justin Thomas. On connaît le niveau de pulsation qu'il a. Il est à plus de 107 pulsations minute sur 4h30. Et puis, sur un drive, il peut monter jusqu'à 162 pulsations par minute alors qu'il est entraîné. Donc, ça veut dire que tous les joueurs ont des émotions. Alors, maintenant, positif ou négatif, je dirais que toutes les émotions amènent quelque chose. Il faut juste apprendre à les comprendre. Par exemple, la frustration ou la colère. Sur un parcours, on en voit souvent hein, des joueurs qui peuvent être un petit peu frustrés. Hein. Eh bien, ça veut dire quoi quand on a de la frustration ? Ça veut dire qu'on a un besoin de réparation. Ça veut dire qu'on a envie d'avoir une décharge énergétique et en même temps qu'on a envie de revenir un petit peu dans la partie. Mais on sent que ça bloque un peu. Alors, l'idée générale, quand on connaît l'émotion, c'est pouvoir la comprendre et puis après, savoir des outils pour réguler, dont on va, je pense, parler tout de suite après.
Et si une émotion, on a la sensation qu'elle est plutôt positive, est-ce que quelque part, elle peut être trop positive et donc devenir néfaste? C'est possible?
Alors oui, parce que l'émotion, quand on est positif, par exemple, on prend l'exemple de Dustin Johnson qui expliquait que lui cherchait justement à calmer ses émotions, à les tenir assez basses, mais pas à les annuler. Parce qu'en fait, oui, une émotion qui est trop positive, en tout cas où on ressent la joie, l'euphorie, il y a un moment, elle peut être distrayante. C'est-à-dire qu'on peut se laisser distraire.
Et donc, on perd quelque part sa lucidité, c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire qu'on a de la confiance qui émerge, on a de l'énergie qui émerge par la joie, en fait. Hein,
en excès, en fait, en excès.
Et en excès, exactement. Et donc, cet excès-là, eh bien, ça peut détourner. Ça peut détourner, par exemple, tout d'un coup, on s'aperçoit que les routines ne se font pas aussi bien. On oublie des étapes, on prend un peu moins l'information du vent, on sort un peu du plan stratégique. Et là, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en fait, on a fait un birdie ou deux birdies de suite, puis arrive vite un bogey ou un double bogey, parce qu'on s'est laissé distraire par une émotion, finalement, qui n'était pas assez régulée dans les deux sens. Donc, l'intensité de l'émotion, c'est comme un bouton, hein, vous allumez, si elle est trop importante en excès vers la joie ou en excès vers la frustration, eh bien, ça distrait.
Alors, concrètement, Cédric, comment est-ce qu'on fait pour gérer nos émotions ? Quelles sont les éventuelles techniques ou les stratégies possibles à adopter ?
Alors, sur un parcours de golf, il y a vraiment trois leviers. Et il faut, je pense, prendre ces trois leviers ensemble, voilà, et pas de manière découpée. Donc, la première chose, c'est la notion d'attitude. Alors, c'est un peu old school comme conseil, mais ça marche très bien. C'est ce qu'on appelle le fameux body language. Parce que vous allez percevoir quand vous êtes sous émotion que le...
Ou langage corporel, je vous coupe une seconde.
Ou le langage corporel.
Le langage corporel, d'accord.
Complètement. Remarquez, quand vous allez être sous émotion, bien, tout d'un coup, la tête peut baisser un peu. La marche, la vitesse de marche change. Là où on pose le regard change. Donc, il y a un tas d'attitudes corporelles qui arrivent. Et donc, il faut reprendre l'attitude efficace pour soi qu'on a définie. Généralement, on demande de relever un peu le regard vers l'horizon. On demande de se redresser, puisque l'aspect corporel communique avec le cerveau. Il y a toute une partie inconsciente.
Oui, je me rappelle très bien, moi, quand j'étais à la fac aux États-Unis, j'avais un coach pour lequel c'était extrêmement important la gestuelle et la tenue sur le parcours. Et elle tenait toujours, même si on jouait mal, à ce qu'on se tienne très droite et qu'on regarde vers l'avant et qu'on n'ait jamais le regard, comme vous le disiez, vers le bas, vers le gazon. Quoi.
Complètement.
Ça m'a marqué.
Vers le gazon, quand vous commencez à regarder vos chaussures, eh bien, en fait, c'est une rumination. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on revient à l'intérieur et on commence à ruminer. Donc, on est dans le passé ou dans le futur, on n'est plus dans l'instant présent, dans le coup par coup, dans le trou par trou. Et donc, on sort de la concentration. La concentration au golf, c'est vraiment une concentration dans l'instant présent. Alors ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est quand le corps réagit. C'est-à-dire physiologiquement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bien, il va y avoir des changements de rythme cardiaque. La respiration va augmenter, la température corporelle augmente. On a beaucoup plus de glucose dans le sang, ça veut dire qu'on a beaucoup d'énergie. Mais il faut la canaliser, cette énergie, et en même temps, il faut s'y habituer.
Et la respiration, justement, c'est important peut-être de s'y arrêter. J'ai souvenir, quand on avait préparé ce podcast, vous parliez de la cohérence cardiaque. Ça, c'est quelque chose que l'on peut travailler in situ sur le parcours.
Complètement. La cohérence cardiaque, c'est vraiment la respiration du golfeur. Parce qu'elle amène de la lucidité, elle amène du posé. Donc, ça consiste à faire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, bien dans ce rythme-là, de le faire une bonne quarantaine de secondes à la suite pour qu'il y ait un effet physiologique. Et en effet, moi, j'utilise des logiciels avec Nastasia, par exemple, qui me permettent de voir qu'il y a un effet physiologique sur son corps. Et donc, on arrive à donner de la cohérence et avoir entre les fréquences cardiaques et avoir beaucoup plus de régularité dans les intervalles. Donc c'est un outil qui est tellement simple et que tous les golfeurs peuvent cultiver. Je vous pousse à vous intéresser à la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est le corps. Le corps, il faut s'habituer à ses réactions. Pour les enfants, par exemple, il faut beaucoup leur expliquer parce qu'ils se demandent ce qui arrive. Et en fait, les joueurs, eux, par exemple, je prends l'exemple de Martin Couvra qui, lui, demande
à ce que le corps... L'un des meilleurs joueurs amateurs actuellement.
Ben voilà, nous, quand on travaille avec lui, avec Makis, il nous demande de vraiment aller chercher de l'émotion parce que ça lui donne du carburant. Et c'est habitué à la réaction de son corps. Tous les joueurs qui nous écoutent, habituez-vous à la réaction de ce corps-là. Intégrez-le comme étant quelque chose de normal. Et tout en respectant les routines. Donc il y a le body language, on a dit le langage du corps, pardon, il y a le corps qui réagit, puis enfin, il y a les pensées qui arrivent. C'est-à-dire que sur le plan cognitif, on va avoir des pensées, alors des pensées de score, des pensées qu'est-ce que vont penser les autres, où est-ce que je vais gagner, est-ce qu'il faut que je fasse birdie. Donc l'idée vraiment là, c'est de s'entraîner à rediriger ces pensées. C'est-à-dire que les pensées, on peut non pas empêcher qu'elles arrivent, elles arrivent quand elles veulent, c'est bien ça la difficulté. Par contre, on peut apprendre à les rediriger. On fait par exemple beaucoup de méditation, comme avec les joueurs amateurs des équipes de France. Mais la méditation, c'est accessible à tous, avec quelques applis.
Aussi bien avant la partie qu'après la partie.
Rory McIlroy, par exemple, avant le Masters, lui fait 20 minutes de méditation le matin pour apprendre à revenir dans l'instant présent, pour apprendre à se reconnecter à sa respiration. On a cette démarche, nous aussi. Donc, on peut pratiquer la méditation dans la semaine, mais aussi avant un tournoi le matin.
Et la visualisation, est-ce qu'elle peut aussi nous aider pour mieux gérer, justement, ces émotions ?
Alors, elle peut nous aider sur deux plans différents. Le premier plan, c'est apprenez à bien imaginer vos trajectoires ou à imaginer vos lignes et votre vitesse de pote. Parce que vous allez ressentir un corps qui réagit, mais vous pouvez quand même, et c'est là toute la clé, faire un bon pote ou faire un bon drive, malgré le corps qui réagit, malgré les pensées qui arrivent, malgré le langage du corps. Donc la première chose, c'est que la visualisation va redonner la voix de ce que vous voulez faire comme coup. Puis la deuxième chose, c'est que la visualisation, vous pouvez l'utiliser chez vous, avant la partie, en vous imaginant sur le parcours, déroulant votre stratégie que vous allez dérouler quelques heures après, ou même le lendemain ou le surlendemain, et en vous voyant bien réagir aux émotions. Donc à utiliser le langage du corps, à utiliser la respiration, à utiliser vraiment le bon body language. En effet, ça peut être très utile.
Et en amont, le sommeil, on se rend bien compte quand on a mal dormi, qu'on n'est pas très bien disposé, etc. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut vraiment travailler ? Parce qu'on dit toujours « Ah oui, il faut bien dormir ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, bien dormir ?
Alors le sommeil, c'est vrai que c'est fondamental pour la récupération. Et en même temps, ça vous permet de mieux réagir après aux émotions. Alors, bien dormir, c'est vraiment connaître son sommeil. Par exemple...
Ce qui n'est pas la même chose.
Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité ou la... Il y a une relation quantité-qualité qui dépend de chacun. Moi, je gère ça avec... je produis un agenda du sommeil avec les jeunes. C'est un tableau Excel.
Ce que les amateurs qui nous écoutent peuvent tout à fait faire eux-mêmes sans aucun problème, en fait.
C'est exactement. Vous faites un tableau Excel sur un mois et puis vous mettez ce petit tableau Excel sur votre table de nuit. Puis tous les matins, vous dites à quelle heure je me suis couché, combien de temps je pense avoir dormi, à quelle heure je me suis levé, quelle était la qualité de mon sommeil et puis quelques observations. Vous faites ça sur un mois et puis vous allez apprendre à vous dire bien là, j'étais vraiment en forme le lendemain ou là, finalement, pendant le sommeil, j'ai pas besoin de 8 heures, j'ai besoin que de 7 heures, mais j'ai besoin d'une bonne qualité de sommeil de là à là. Donc voilà. Donc cet agenda du sommeil, facile à faire et très intéressant pour apprendre à se connaître. Parce que c'est ça la clé. Hein.
En fait, tout ça, c'est une sorte de boîte à outils.
Alors, la boîte à outils, oui, en effet, il y a aussi le fait de d'avoir ce qu'on pourrait appeler des stratégies de coping. Alors, les stratégies de coping, c'est des stratégies de comportement,
oui,
en fait.
Qui vient de l'anglais « to cope », surmonter.
C'est ça, exactement. Et donc, ces stratégies de coping, c'est par exemple, on peut très bien s'agacer un tout petit peu, mais il ne faut pas que ça soit trop long. Donc, il ne faut pas me faire monter, comme on a dit, le taux de cortisol trop longtemps. Donc, pour ça, utilisez la cohérence cardiaque. Et puis, une stratégie de coping, c'est d'avoir des attentes, des objectifs adaptés à son niveau de jeu. C'est qu'une question de niveau de jeu.
Et justement, quels sont les objectifs précisément de la bonne gestion de ces émotions? Vous parliez tout à l'heure de savoir les identifier, les comprendre, pour pouvoir mieux les analyser. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, oui. La première chose, c'est d'apprendre à les comprendre, c'est-à-dire comment je fonctionne dans l'émotion. Après, c'est savoir, par exemple, il y en a qui vont être un peu plus frustrés, d'autres qui vont être un peu plus déconcentrés, d'autres qui vont bien réagir dans certaines émotions un peu euphorisantes, puis qui vont mal réagir quand ça vient se crisper un peu, puis d'autres, c'est le contraire. Donc, il faut apprendre à d'abord écouter les émotions et à faire avec, et à les accepter comme étant non pas quelque chose qu'il faut enlever, mais quelque chose où il faut faire avec. Quand on a déjà compris ça, ça se passe déjà mieux.
Oui, donc en fait, se connaître, ça se travaille. Comme toujours.
Complètement. Donc ça se travaille. Après, on peut mettre quelques compléments dans la boîte à outils, si vous voulez. Par exemple, moi, j'invite les joueurs qui sont sous forte émotion à vraiment être connectés à leur routine. C'est-à-dire que la routine, c'est une vraie clé. Donc la routine, c'est tout ce qui se passe avant le coup.
C'est un côté rassurant en plus.
Complètement. Donc ça met dans une bulle attentionnelle qui en même temps permet d'orienter les choses on fait les bonnes choses avant le coup. Donc on prépare bien le coup. Voilà.
Certains psychologues du sport, comme Makis Chamalidis, que nous avons déjà reçu ici dans le podcast, parlent de la nécessité de compartimenter ses émotions. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, compartimenter les émotions, c'est déjà bien comprendre qu'on peut avoir une émotion d'un côté, et de l'autre côté, on peut quand même faire des bons coups. Donc ça, c'est fondamental. On a trop tendance en France, et en Occident, je dirais, à vraiment mettre les émotions de côté. C'est-à-dire de dire, quand on a des émotions, on ne peut pas scorer. C'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions, c'est un message qui vient nous être amené, qui nous donne des pistes pour dire, change quelque chose, fais quelque chose d'autrement.
Donc il ne faut pas les refouler.
Il ne faut pas les refouler, il faut au contraire les intégrer, et il faut apprendre à faire avec. Par contre, à ce moment-là, quand on est sous émotion, il faut vraiment orienter la pensée plutôt sur sa routine, plutôt sur les points d'attention et utiliser sur le langage du corps l'aspect attentif, c'est-à-dire sur toute la partie cognitive des pensées, rediriger ses pensées. Il faut vraiment utiliser les outils à ce moment-là.
Et justement, si je reviens sur ces outils, est-ce qu'il est souhaitable de combiner plusieurs techniques ou est-ce qu'il est préférable de se focaliser juste sur une seule qui semble mieux nous convenir ?
Moi, je vous conseille d'avoir plusieurs techniques, mais tout en faisant le tri. L'aspect émotionnel, une partie du corps, une partie des pensées, une partie de l'attitude. Quand on a compris ça, il va falloir agir sur les trois. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que vous agissez sur l'attitude que ça va solutionner les choses. Donc moi, ce que je vous invite, c'est d'avoir un outil dans chacun. C'est-à-dire un outil sur le langage du corps, un outil sur les pensées et un outil sur la réaction du corps physiologique pour pouvoir la faire descendre d'un cran.
Et pour les plus jeunes, est-ce que c'est aussi important d'apprendre dès le plus jeune âge justement à gérer ses émotions? Et si oui, à quel âge est-ce que justement vous, peut-être vous recommanderiez-vous de s'y atteler?
Alors c'est le plus tôt possible. Hein. En fait, les jeunes, ça leur fait un peu peur les émotions. C'est-à-dire qu'ils se demandent ce qui leur arrive. Donc la première chose, c'est de leur expliquer comment elles fonctionnent, ces émotions. Souvent, je leur explique une histoire, l'histoire de l'homme de Cro-Magnon qui se balade avec son pote dans la savane et puis ils sont en train de cueillir des baies, puis tout d'un coup, ils tombent nez à nez avec un tigre à dents de sabre, hein, avec des grandes dents. Donc là, le tigre, il mange son pote. Et là, l'homme de Cro-Magnon, qu'est-ce qui lui passe dans le cerveau? Moi, c'est un peu comme un golfeur, il se dit « tigre à dents de sabre égale danger ». Alors, le lendemain, il est dans sa grotte, tout seul, là, et puis il regarde en bas, et puis sur le même chemin, tout d'un coup, il voit le tigre. Là, il a deux solutions, c'est où il fuit, où il combat. Et donc, je leur explique comme ça aux enfants. Alors, je lui dis, par exemple, là, il a fui. Alors, il n'a pas eu besoin de s'échauffer. C'est-à-dire que le corps est monté en température tout de suite. Il était à 120 pulsations au minute sans bouger. Et donc, il a pu vraiment ou fuir ou se défendre. Et il y a une réaction physiologique qui vraiment l'a aidé à être en sécurité et lui a sauvé la vie. Donc, l'idée générale, c'est que je raconte des petites histoires comme ça pour leur apprendre ce que c'est que l'émotion. Mais on devrait apprendre ça à tout le monde, finalement, pour comprendre que c'est très utile et qu'on est dans une alternance sur un parcours comme dans la vie, entre des émotions qui sont plutôt ressenties comme agréables et des émotions ressenties comme désagréables. Et c'est ce mix des deux qui est le vrai équilibre d'une performance, en fait.
Oui, c'est vrai qu'en golf, on est un peu sur un courant alternatif.
Complètement. Et c'est comme ça qu'on gagne, d'ailleurs. C'est-à-dire que, comme c'est long, vous l'avez bien dit, ça dure 4h30, 5h, on a environ 40-45 minutes de jeu avec les routines. Ça veut dire qu'on a 3h40, 45, où on marche, où il se passe des choses dans la tête, etc. Donc oui, il faut avoir des outils, il faut avoir un plan émotionnel pour répondre aux émotions qui vont naître, parce qu'en 5 heures de temps, il va avoir des émotions, on ne pourra pas les enlever. Donc c'est comment on les gère, comment on se sert des outils et quel est son plan.
Et je voulais justement aussi parler de la maturité psychique dont parlent souvent les psychologues du sport et les préparateurs mentaux. Qu'est-ce que c'est précisément, cette maturité psychique ?
Je dirais que chaque joueur devrait passer du temps à travailler sur son identité. Un individu lambda est mature à 25 ans. Psychiquement, c'est-à-dire que la personne se connaît bien comment elle fonctionne. Eh bien, c'est pareil pour un joueur. Un joueur, il devrait être à maturité quand il connaît son style de jeu, quand il connaît dans quel secteur de jeu il est plutôt fort et il est plutôt moins fort, quel est le rythme de sa marche qui est efficace pour ne pas en changer, quel type de réaction est adapté pour lui quand il fait un bon coup, quand il fait un coup moyen ou quand il fait un mauvais coup.
Donc ça peut très bien arriver à 70 ans.
Exactement. Il n'y a vraiment pas d'âge, mais l'idée générale, c'est j'apprends à me connaître en tant que joueur, point fort, point faible, et j'apprends à réagir aux émotions sur un parcours, dans les moments qui sont un peu chauds, puis dans les moments qui se passent bien. D'ailleurs, beaucoup de joueurs l'ont appris par eux-mêmes, ils savent très bien faire. Moi, je conseille par exemple un livre de Wendy Suzuki qui s'appelle « Votre anxiété est un super pouvoir ».
Éditions Marabout.
Exactement. Mmh. Et cet ouvrage, il y a un côté scientifique et en même temps, il y a des tableaux qui expliquent comment, avec des petits exercices à la fin, que vous pourrez utiliser. C'est vraiment un bouquin de référence qui est sorti il y a un ou deux ans, et qui vous expliquera des choses qui sont assez complexes de manière très simple et vous pourrez faire du transfert dessus. Ouais.
Merci Cédric.
Merci beaucoup Christelle.
On a compris qu'il était normal d'avoir des émotions sur le parcours puisque nous ne sommes pas des robots. Mais en apprenant à se connaître, ces émotions peuvent devenir une véritable force et nous permettre d'optimiser nos capacités et d'accroître encore notre plaisir du jeu. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. D'ici là, bon parcours intérieur.